bien, bonsoir à tous. J'ai conscience que c'est un peu ingrat de parler après un beau film. C'est plus facile de regarder que d'écouter. Mais, comme a dit le frère Gilles Hervé, il est bon aussi d'écouter. Donc je vais tâcher, mon propos sera un peu d'essayer d'illustrer les images. Je suis d'ailleurs heureux de parler après, de manière à ce que vous puissiez avoir des images, qui étaient fort belles, derrière les propos, les personnes, les lieux que je vais évoquer. Je vais tâcher d'abréger tout ce que je voulais vous dire. Le titre qui m'a été proposé par nos chères sœurs, c'est une belle formule, un Saint-Dominique caché dans la lumière, qui est écrite sur votre programme. Je n'ai pas fait des recherches d'historiens très poussées, mais je crois que cette formule est tout simplement du frère, d'un des grands historiographes, enfin, un bon historien récent de Saint-Dominique, le frère Guy Thomas Bédouel, qui est l'auteur d'un des bons livres aujourd'hui disponibles sur Saint Thomas, sur Saint Dominique ou la grâce de la parole. Et c'est lui qui a eu cette belle formule, Saint Dominique caché dans la lumière. Alors le génie de cette formule, évidemment, il faut qu'on essaye, on va s'appuyer dessus, c'est cette idée que Saint Dominique est un homme de lumière. Vous l'avez compris, un homme rayonnant de la lumière de l'Évangile, dont il a laissé sa vie être pétrie par Dieu et qui a voulu ensuite la rayonner, la transmettre, la communiquer, à une époque où il n'allait déjà plus de soi d'être chrétien. Bon, un homme de lumière par sa vie évangélique, par son propos, mais un homme caché. Saint Dominique n'a jamais voulu rester spécialement caché, mais de fait, quand on regarde dans l'histoire de l'Église, sa figure est relativement peu connue, comme s'il avait délibérément, ou le Seigneur avait voulu qu'il restât un peu caché, avec une disproportion entre l'immensité de son œuvre, et c'est un peu ça qu'on entend quand on parle de la lumière, et la modestie de sa personne. Alors évidemment, tout d'abord, caché dans la lumière, on ne peut pas s'empêcher de penser à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise et Saint Dominique sont vraiment contemporains, et ils ont fait une œuvre extrêmement proche, puisqu'ils sont les deux fondateurs contemporains de deux très grands ordres mendiants, ces grands ordres qui ont contribué au réveil de la foi au XIIIe siècle. Saint François est immensément connu. Le monde entier le connaît. Je crois qu'il n'y a peut-être pas de chrétiens qui ne connaissent pas saint François. Un second Christ, bon, il est connu, il est vénéré. Et on peut dire que de quelque manière, saint François éclaire tous les autres franciscains. Il est en quelque sorte la lumière de tous les franciscains. Saint Dominique, au contraire, est beaucoup moins connu que son ordre. On connaît beaucoup plus son ordre, les dominicains, que la personne. Et c'est ça que veut dire, je pense pour Guy Thomas Bédouel, cette idée, saint Dominique est caché derrière son œuvre. Alors, c'est un peu prétentieux de dire que nous, les dominicains, nous sommes la lumière. Saint Dominique était probablement plus que tous les autres dominicains, mais enfin, disons que l'ordre de Saint Dominique a beaucoup joué dans l'Église, un rôle énorme, qui est comparable à celui des franciscains. Alors que la figure de François est mille fois plus connue que la figure de Dominique. Donc il y a, de ce point de vue-là, une certaine disproportion. Alors que Saint Dominique est vraiment connu par ses fils. Et on le dit très souvent, si les dominicains sont si connus, c'est moins à cause de Saint Dominique, qui n'est pas très connu, que par tous les enfants de Saint Dominique, ses fils, ses filles, à travers le monde. Sainte Catherine de Sienne est beaucoup plus connue et beaucoup plus vénérée que Saint Dominique. Saint Thomas d'Aquin est infiniment plus connu, infiniment plus lu, depuis toujours, depuis qu'il existe, que Saint Dominique. Même le père Lacordaire. Et vous serez sensible, les seuls, alors vous me direz, oui, mais souvent dans nos églises, et ce n'est pas vrai simplement en France, je l'ai constaté beaucoup en Italie, jusqu'en Haïti, très souvent dans les églises, vous avez une statue de Saint-Dominique. Mais, c'est toujours Saint-Dominique avec la Vierge du Rosaire. Autrement dit, si Saint-Dominique est connu, c'est grâce à la spiritualité du Rosaire, qui de fait a été très populaire dans l'histoire de l'Église depuis le XVe siècle, mais Saint-Dominique souvent est présent d'ailleurs à genoux, on le voit simplement à genoux, au pied de la Vierge. Avec Catherine de Sienne de l'autre côté. Donc oui, même pour ça, Saint Dominique est moins connu que son rosaire, dont il n'est d'ailleurs pas l'inventeur, mais ce sont ses fils qui l'ont propagé. Donc un peu ce mystère d'une figure demeurée relativement cachée. Alors, ça nous a été dit tout à l'heure, ce qui contribue au fait que Dominique est peu caché, d'abord il a écrit, il a probablement dû écrire, parce que c'était un homme qui savait écrire, mais il n'a écrit aucun livre, encore moins aucune somme de théologie, il n'a jamais produit. Il a sûrement prêché, mais on n'a aucun texte qui nous fasse savoir ce qu'il a dit, aucun témoignage écrit. On a vaguement quelques lettres qu'il a écrites, mais qui sont des toutes petites lettres. On a très peu d'écrits sur lui, qui datent de son temps. Donc on sait peu de choses Et évidemment, quand on parle de Solomonique, on a beaucoup de liberté parce qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses. Et comme il n'a rien dit, enfin du moins, on ne sait pas ce qu'il a dit, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Par contre, comme on comprend bien son esprit, on arrive à dire des choses, comme c'était le cas du frère Yves, qui sont très consonantes à Saint-Dominique, mais qui ne sont jamais des paroles même de Saint-Dominique. De tout ce qui a été prêté à Saint-Dominique dans la bouche, il n'y a pas un mot dont on soit sûr qu'il l'ait dit. Mais tous ces mots, on pense qu'il a pu les avoir dit, hein, parce qu'on connaît bien sa figure. Donc vous voyez, un homme très, très peu connu qui s'est effacé derrière son œuvre. Alors c'est évidemment en regardant son œuvre qu'on arrive à comprendre, parce que à la différence de Saint-François, qui a eu quelques intuitions géniales, spirituelles, qui font vivre dans l'Église entière depuis 2000 ans, depuis 800 ans, mais l'ordre franciscain n'est que partiellement l'œuvre de Saint-François, parce que Saint-François n'était pas vraiment un fondateur d'ordre. Il avait des grandes, c'était un immense spirituel. Il n'a pas réussi à organiser son ordre. D'autres l'ont fait, parfois un peu contre lui d'ailleurs. Bon. Alors que Saint-Dominique a exactement lui-même conçu son ordre. Il a vraiment eu ce rôle charismatique de recevoir de Dieu la vérité de ce que devait être cette famille spirituelle des frères et des sœurs de l'ordre des prêcheurs. Et donc on sait que quand on regarde l'ordre des prêcheurs, on a un portrait de Saint-Dominique. Plus encore que l'ordre franciscain, parce que Saint-François, semble-t-il, ne se retrouvait pas toujours derrière ce qu'on avait obligé ses frères à devenir. Alors que Saint-Dominique a voulu... Enfin, l'ordre a été ce qui vraiment il a voulu qu'il soit. Et donc, de ce point de vue-là, il est caché dans sa lumière, et en regardant bien l'ordre, on arrive à voir un peu quelque chose de lui. Alors, le propos que je vais... On peut parler longuement de Saint-Dominique à travers quantité d'aspects. Le propos que je veux retenir, c'est de mettre en valeur deux aspects de sa personnalité, en même temps que de sa vie, qu'on retrouve très profondément dans l'existence de la famille des frères et sœurs dominicains. Deux aspects qui pourraient sembler un peu contradictoires. Alors les sœurs qui m'ont déjà entendu, elles vont réentendre des choses qui me sont familières, mais dites de manière un peu plus concise. Tout d'abord, je pars d'une expression très belle, qui est typiquement dominicaine, parce qu'elle faisait partie de la liturgie dominicaine pour la fête de Saint-Dominique. On commence une antienne en disant « au milieu de l'Église, in medio ecclesiae, le Seigneur lui a ouvert la bouche. » In medio ecclesiae. Ça, cette formule, elle nous est très chère parce que ça veut dire que Dominique a toujours été un homme au cœur de l'Église. C'est un homme qui a brûlé passionnément du désir de servir l'Église, de servir d'abord l'Évangile, mais au cœur de l'Église, toujours dans le mystère de l'Église. Beaucoup plus que Saint François. Saint François était profondément catholique, mais il était un peu plus franc-tireur. C'était un homme un peu plus dans les marges. Saint Dominique, par tout son être, il était un homme du milieu de l'Église, qui vivait de l'Église. On nous a dit, il est rentré dans les ordres très jeune, il a toujours été prêtre. Saint François n'était pas prêtre. On ne sait même pas s'il était diacre. Saint Dominique était un prêtre, un clerc au cœur de l'Église, qui vivait profondément au cœur de l'Église. Et on verra en particulier qu'il s'est beaucoup appuyé sur les autorités d'Église pour fonder son ordre. Il n'a pas du tout fondé un ordre à la marge de l'Église, en contrebande, comme souvent les fondateurs doivent faire. Non, il a fondé un ordre au cœur de l'Église, et il y a toujours ce mystère de présence au cœur de l'Église. Et en même temps, c'est l'autre aspect de la vie de Saint-Dominique, Saint-Dominique était un homme essentiellement itinérant. Un homme dont toute la vocation s'est épanouie en voyage. Et en voyage, pas seulement en voyage physique, hein, mais dans un immense voyage spirituel, de sorte que toute sa vie, toute la fécondité de sa vie, a été marquée par d'incessants voyages. Saint-Dominique, on le voit à partir du moment où il arrive, il quitte la Castille, on voit quand il commence à s'installer dans le midi de la France, il n'a plus de lieu à lui. Et plus ça va, moins Saint-Dominique a sa maison à lui. Il n'a même pas son couvent à lui. Et à la fin, il se contente d'aller de maison en maison, sillonnant l'Europe. Bon. Et c'est un homme qui est admirablement représentatif de l'itinérance qui est au cœur de la vie des apôtres. Et de ce point de vue-là, Saint-Dominique est un des premiers saints qui reproduit en sa personne la vie des apôtres, avec Jésus, la vie de Jésus. L'itinérance allant sans cesse de lieu en lieu, non pas qu'il fuyait, mais parce qu'il avait une mission universelle à accomplir. Et il reste un exemple permanent pour nous de ce déracinement pour être toujours plus enraciné sur le Christ. Alors vous voyez, un homme au milieu de l'Église et qui en même temps passe son temps à bouger, à voyager. Alors je vais essayer simplement, dans le temps, là, qui la demi-heure que je vais voir avec vous, de faire un petit fil rouge qui va être de suivre quelques-uns des voyages de Saint-Dominique. Mais principalement, j'ai choisi les voyages que Saint-Dominique a fait à Rome. On nous a parlé de Rome, vous l'avez vu, hein, et Saint-Dominique a fait 6 fois le voyage de Rome. Et à chacun de ces voyages, s'est passé des grandes choses, et donc je vais essayer de décrire rapidement ces 6 voyages qu'il a fait à Rome, et à travers chacun d'eux, je retiendrai un aspect important de ce qu'on peut appeler la spiritualité de Dominique, qu'il a légué à son ordre et qui constitue aujourd'hui, et depuis 8 siècles, le charisme de l'ordre de Saint-Dominique. J'essaierai de pointer à chaque fois un point important qui ressort à l'occasion de ce voyage. Alors, rapidement, malgré tout, vous l'avez vu, la vie de Saint-Dominique nous a été résumée, nous a été bien présentée. Moi, je la résumerai en 3 grandes périodes, que vous ayez un petit peu les idées claires. Vous avez compris qu'il est né en Espagne, on ne connaît pas sa date de naissance. Vous voyez, première aussi, on n'a aucune certitude sur sa date de naissance. On n'est même pas certain de la famille à laquelle il appartenait. On connaît le nom de sa mère, on sait très peu de choses. Probablement né entre 1170 et 1175, mais de sorte qu'on ne sait pas à quel âge il est mort. Comme il est mort en 1221, vous voyez, il a eu au maximum 50 ans. On pense qu'il n'a pas atteint 50 ans. Probablement mort entre 45 et 50 ans. Sur cette 50aine d'années, il en a passé, grosso modo, on peut dire, les 30 premières, c'est-à-dire plus de la moitié, en Espagne. Dans son Espagne, cette Castille qui nous a été très bien décrite, cette terre catholique, claire, lumineuse, et dans laquelle il a grandi. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, pour retenir simplement que, quand il est rentré, ce qui ne nous a pas été dit, mais quand il est rentré dans les ordres après ses études, il est devenu ce qu'on appelle chanoine. Il est rentré dans un chapitre cathédral. À l'époque, les évêques vivaient la vie commune, ce qui s'est perdu comme habitude. Ils vivaient la vie commune avec des chanoines. Ils vivaient une vie monastique, une vie religieuse, à la cathédrale. Chaque évêque avait une dizaine de chanoines qui récitaient l'office avec lui. Saint-Dominique était chanoine, très, très installé, mais en même temps une vie dépouillée de pauvreté, une vie religieuse, de prière permanente et de prédication. Il commence à quitter l'Espagne, on l'a vu, pour ses ambassades aux Pays-Bas, Danemark, Suède, quelque part là-haut. On ne sait même pas trop exactement, d'ailleurs, quelle était la princesse qu'il allait chercher. Première période de sa vie. Ensuite, il y a, de 1205 à 1215, une dizaine d'années où, grosso modo, il n'est plus en Espagne du tout. Il est dans le sud de la France, dans le Midi. Alors, on dit le Midi toulousain, entre Carcassonne, Fanjeau, petite ville entre Toulouse et Carcassonne, où on sait qu'il a été installé stable pendant 2 ans. C'est un rare moment, on sait. Il semble qu'il ait passé une année entière à Carcassonne, au service de l'évêque. Et finalement, à partir de 1213-15, il semble qu'il est plutôt à Toulouse, habitant plutôt à Toulouse. Mais on ne sait pas exactement tout cela. En tout cas, 10 années dans le Midi de la France, au cours desquelles, on nous l'a dit, il commence à rassembler ses premiers compagnons. Puisque c'est en 1215 qu'il va partir à Rome pour son voyage pour faire reconnaître la foi. Et ensuite, 1215-1221... les 6 dernières années, là, il n'a plus aucun domicile fixe. C'est un véritable SDF. Il passe son temps, mois après mois, à aller de lieu en lieu. De Toulouse, il retourne en Espagne. De Toulouse, il va à Paris. De Paris, il va à Bologne. De Bologne à Rome. Il retourne à Toulouse. Il retourne à Paris. Une vie d'itinérance absolue. Et entre-temps, il prêchait beaucoup dans tout le nord de l'Italie. Bon. On nous a évoqué qu'il est mort d'épuisement. 50 ans, à l'époque, c'était pas très jeune, mais c'était non plus, malgré tout, il est mort de fatigue et d'épuisement. 3 grandes périodes. Alors, comment situons ces 6 voyages à Rome dans ces grands moments de sa vie? 30 ans en Espagne, 10 ans dans le Midi de la France, qui aboutissent à la fondation de l'ordre, et 6 ans pour fonder l'ordre. Le premier voyage qu'il a fait à Rome, ça nous a été évoqué, c'était avant la fondation de l'ordre, 1206. Janvier-février 1206, qu'est-ce qui amène Dominique à Rome? Saint-Dominique était avec son évêque, là aussi, Saint-Dominique dans la lumière de son évêque, c'était le second de l'évêque, revenant de la Dacie, comme on disait, c'est-à-dire les contrées scandinaves, il décide, son évêque élu, de passer à Rome. Pourquoi? Parce que tous les deux, semble-t-il, et c'est significatif, avaient, on le conjecture, hein, parce que, le désir de se faire envoyer par le pape en mission d'évangélisation dans les contrées d'Europe, du nord et de l'est, en gros, vers au-delà de la Pologne, ou dans la Finlande, ou quelque part, où il y avait encore, ou vers la Russie, enfin, toutes ces terres où il y avait encore des non-chrétiens, qu'on appelait les Cumans. Tous les deux brûlés de ce désir d'aller évangéliser. Donc on voit 2 hommes qui portaient ce fort désir d'évangélisation, qui ne voulaient plus retourner dans leur diocèse d'Espagne bien catholique. Ils se sentaient appelés à ça. Ils voulaient participer. Alors il faut savoir qu'il y avait beaucoup de missions lancées par le pape dans toutes ces régions, pour essayer d'évangéliser ces païens. Alors, surprise, l'évêque de Rome, le Saint-Père, leur refuse cette autorisation. 1206, le pape leur dit « Il n'est pas question, vous rentrez en Espagne ». Alors, on ne sait pas pourquoi. Hein. Le pape de l'époque était pourtant, Innocent III était un pape extrêmement évangélisateur, mais il a senti que Diègue et Dominique devaient retourner en Espagne. Alors, ils obéissent. Diègue et son évêque obéissent, ils renoncent à leur projet missionnaire. Simplement, au lieu de retourner directement en Espagne, il semble qu'ils sont passés à Citeaux, un peu au nord d'ici, probablement, étant donné le rayonnement immense des moines cisterciens, qui étaient non seulement des moines défricheurs, mais qui étaient aussi des grands évangélisateurs et des missionnaires, des prédicateurs. À l'époque, les grandes prédications étaient souvent confiées aux cisterciens. Il semble que ce soit pour ça, ils ont voulu aller à Citeaux, et puis ensuite, ils sont redescendus vers le midi, et là, mars 1206, avant d'arriver en Espagne, avant même d'arriver à Béziers, à Montpellier, ils rencontrent les missionnaires envoyés par le pape, les légats qui étaient envoyés par le pape dans le midi de la France pour essayer de convertir ces cathares dont on nous parlait, ces malcroyants. On ne sait pas comment les appeler aujourd'hui d'ailleurs, parce que cathares là aussi c'est un nom interpolé, mais à l'époque ils ne s'appelaient pas comme ça. Bon. En tout cas, ces gens qui n'étaient plus chrétiens, qui n'étaient plus dans l'église et qui gangrenaient la société au point d'être dominants. Le comté de Toulouse était quasiment aux mains des cathares. En 1206, ils rencontrent ces prédicateurs envoyés par le pape qui étaient découragés. Parce que ces prédicateurs n'obtenaient aucun résultat. Ils ne parvenaient à rien. Et c'est là que coup de génie, inspiration charismatique de l'évêque Diègue et de Dominique à côté de lui, mais il semble bien que ce soit Diègue. Diègue a fait à tous ces prélats romains la leçon. Vous ne parviendrez à rien en matière de conversion tant que vous vivrez dans le luxe, l'ostentation, parce que le clergé d'époque était richissime, avec des suites de domestiques, des caravanes de chameaux, de chevaux luxueux. Il prêchait du haut de la puissance ecclésiastique. Et Diègue leur a dit, vous ne parviendrez à rien si vous prêchez du haut de votre puissance. Nous allons vous montrer l'exemple, Dominique et moi, on va prêcher sans rien, dans la pauvreté. Et c'est de là que là, cette intuition forte d'une prédication dans la pauvreté. Et Diègue et Dominique arrivent à convaincre ces prélats, ces grands prélats ecclésiastiques, de faire la même chose. Et du coup, va commencer, et c'est là que va commencer pour Dominique et pour Diègue, cette idée, nous allons rester dans le midi. Donc vous voyez, en fait, ils désobéissent au pape. Enfin, Diègue est quand même retourné en Espagne, mais afin de régler les affaires pour pouvoir revenir vite prêcher dans le sud. Bon. Et va commencer pour Dominique, qui ne quittera plus le midi de la France pendant 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce premier séjour romain? Tout d'abord, j'insiste pas, l'expression du rôle central de Rome, déjà au début du XIIIe siècle, comme lieu missionnaire de toute l'Église, c'est de Rome que partaient des missions déjà dans le monde entier. Il ne faut pas attendre le 19e ou le 20e, déjà au 13e, c'est de Rome que partaient les longs missionnaires, organisés par l'évêque. Cet extraordinaire renouveau spirituel qui était déjà missionnaire à l'époque, pour des gens comme Diègue et Dominique, habités du feu de l'esprit, être profondément chrétien, c'est tôt ou tard se poser la question, est-ce que je ne dois pas donner ma vie pour évangéliser ceux qui ne sont pas chrétiens? Un réveil de cette flamme missionnaire. Mais surtout, j'insisterai ici sur l'obéissance crucifiante de Diègue, qui est un exemple magnifique d'une belle obéissance. Et alors, j'extrapole un peu d'une obéissance déjà dominicaine. À savoir, je ne veux pas dire trop vite une obéissance intelligente, mais en tout cas une obéissance qui commande, qui fait ce qu'on nous a commandé. Vous rentrez, ils rentrent. Ils reprennent le chemin. Mais ce faisant, ils s'exposent précisément à rencontrer les prédicateurs du pape et à découvrir que le Saint-Esprit les appelait peut-être à autre chose. Et de fait, ils ont obéi sans renoncer à ce qu'ils sentaient en eux, comme venant du Saint-Esprit, l'urgence de la prédication. Alors ce ne sera pas la prédication lointaine, ce sera la prédication chez nous, dans ce midi de la France. Et donc, sans désobéir du tout, qu'on très obéisse, mais ils gardent la conviction que ce qu'ils ont senti de Dieu est vrai et on ne peut pas leur faire changer d'avis. Obéissance comme école de liberté et de fécondité. Et l'ordre des prêcheurs est né de l'obéissance de Diègue et de Dominique. Imaginez si Dominique était parti au fin fond de la Russie, il aurait été martyrisé, il n'y aurait pas d'ordre des prêcheurs. Il a obéi au pape, l'ordre des prêcheurs a pu voir le jour, et vous savez que dans l'ordre dominicain, on est très attaché à cette idée d'une obéissance qui doit être radicale dans l'ordre de faire ce qu'on nous dit, mais qui n'est une obéissance qui ne nous oblige jamais de penser que ce que nous croyons être vrai est faux. Un supérieur peut nous dire « fais ceci, ne fais pas cela », il ne peut pas nous dire « ce que tu crois être vrai, c'est pas vrai, c'est faux ». Si on pense que c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a jamais d'obéissance qui va nous forcer à considérer comme vrai ce qu'on ne voit pas comme vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire exactement ce qui nous est demandé de faire. L'obéissance porte sur le faire, il faut faire ça. Mais on l'illustrera tout à l'heure chez le père Lagrange qui a vécu cette type d'obéissance de manière admirable. Dominique exerce la conviction d'être appelé par l'Esprit Saint à évangéliser. Mais finalement, ils l'ont fait tout en obéissant au pape, et obéissant profondément et fidèlement au pape. Obéissance dominicaine. Voilà pour ce premier voyage. Je passe, pour ne pas durer trop, deuxième séjour romain. Entre-temps, deuxième séjour romain, Saint-Dominique retourne pour la deuxième fois à Rome, 10 ans après. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, il a passé 10 ans dans le Midi. Le pauvre Diègue est mort, n'a pas pu revenir, donc Saint-Dominique se retrouve seul, prêche abondamment, c'est là qu'on a vu ces très belles images, il rencontre des cathares, il se fait attaquer, en même temps il en convertit beaucoup par la parole. Il rassemble ses premières sœurs à Prouille, hein, dès 1206-7, les premières sœurs moniales, qui sont là, on les a très bien vues, puis à partir de 1200, là, je trouve que Yves parle de frères en 1210, ça semble pas être le cas. Les premiers frères, ça semble bien 1213, au maximum 14, ils sont à Toulouse, en 1214, 1215, et là, l'évêque de Toulouse, Foulque, qui est dans une ville envahie de cathares. Il est le seul catholique. Le comte de Toulouse est cathare, l'aristocratie est cathare, tout le monde est cathare. Bon. L'évêque est quasiment seul, content de voir arriver Dominique. Et donc, c'est là que Dominique accueille les premiers frères, reçoit leur profession. Et en 1215, c'est là qu'est fondée, alors on se dispute un peu entre nous, la première communauté dominicaine de frères reconnue par l'évêque de Toulouse. Ils font leur première profession religieuse. Hein, en avril 1215, Pierre Seilla fait sa profession religieuse à Toulouse. L'évêque les reconnaît comme des religieux, ils ne s'appellent pas dominicains, ils s'appellent encore moins prêcheurs, pour prêcher dans le diocèse de Toulouse. Mais Foulque est appelé en 1215 à siéger, comme tous les évêques, au grand concile du Latran, et donc il part à Rome, et il emmène Dominique avec lui, comme son secrétaire. Dominique, toujours près de l'évêque, toujours un homme d'église. Bon. Ils partent à Rome, et alors c'est là que tous les deux, une fois arrivés à Rome, participent au concile, mais vont chercher à obtenir la bienveillance d'Innocent III pour une reconnaissance de l'ordre de cette première petite communauté religieuse. Alors, ce qu'il faut retenir de ce grand concile de Latran, auquel il participe en 1215, c'est que le pape voulait rénover l'Église, réformer l'Église, hein, un élan réformateur, face précisément à ses hérésies, à ses défis. Le pape avait la conviction que les armées, les croisades, parce que je n'ai pas parlé, mais il faut savoir que face aux hérétiques, on a commencé par envoyer des militaires. À l'époque, ça paraissait normal, on commence comme ça. Mais le pape savait bien que ce n'était pas la bonne solution, et donc il pensait que la solution viendrait d'un réveil spirituel. Que les chrétiens redeviennent vraiment chrétiens, que les prêtres redeviennent des vrais prêtres, qui enfin des gens qui prêchent, parce que plus personne ne prêchait dans l'Église à cette époque-là. Les prêtres avaient mieux à faire que de prêcher. Ils ne savaient pas prêcher, ils étaient ignorants. Bon, ça recommençait, on nous a dit, chez les dominicains plus tard. Enfin bon. Donc il manquait de prédicateurs. Le pape voulait vraiment réformer l'Église, et s'appuyer sur des prédicateurs. Et le pape soutenait beaucoup tout un tas de courants, de prédicateurs, qui étaient capables vraiment d'annoncer l'Évangile dans le vivant, tout en étant bien dans l'Église, parce qu'il y avait aussi beaucoup de prédicateurs hétérodoxes, qui se mettaient aux marges de l'Église, bon, qui étaient souvent incontrôlables. Et face à tout ça, le pape essayait de les soutenir, en exigeant de tous les évêques qu'ils nomment dans leur diocèse des prédicateurs, qu'ils réforment les études pour que le clergé soit vraiment formé. Un clergé mal formé, c'est une catastrophe, c'est très fréquent. On ordonne des gens qui ne sont pas formés, ils savent à peine le latin, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'ils prêchent? Bon. Donc on exige des évêques qu'ils forment leur clergé, qu'ils forment des prédicateurs, mais en même temps, par crainte de tous ces mouvements de prédicateurs, aujourd'hui on les appellerait évangéliques, incontrôlables, le même concile a interdit de fonder de nouveaux ordres. Et le pape était obligé d'accepter ça. Parce que le pape n'est pas chef du concile, hein, il le préside, mais les évêques se méfiaient. Donc en même temps qu'on encourage les mouvements de prédication, on interdit la fondation d'ordres nouveaux. C'est très gênant pour Dominique et pour l'évêque de Toulouse. Mais Innocent III leur dit, j'ai confiance en vous, retournez à Toulouse, choisissez une règle qui existe déjà, et moi je me chargerai de vous reconnaître comme des bons religieux. Simplement prenez une règle qui existe déjà. C'est une manière de contourner la loi du concile par le pape lui-même. Et de sorte qu'il y renvoie à Toulouse pour qu'il choisisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce second voyage de Dominique à Rome? J'insisterai pas trop là-dessus, mais c'est évidemment celle de la parole comme la seule arme efficace du combat de la foi. Ça nous a été dit, et c'est très vrai, mais je crois que c'est quand même la fierté dominicaine, qui était également celle de saint François d'Assise et de beaucoup de réformateurs au XIIIe siècle. L'Église ne pourra lutter contre la malcroyance, contre l'hétérodoxie, que par une seule arme, la prédication du véritable Évangile vraiment vécu. les moyens de puissance, la coercition, forcer les gens à redevenir chrétiens, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Pour extirper l'hérésie, seules peuvent marcher les armes de lumière. Non pas le glaive, les croisades ne servent à rien. Et saint Dominique en avait bien la conviction. Alors les rois, eux, pensaient que la croisade c'était la solution. Tout le monde doit revenir catholique, on envoie des armées pour forcer les gens à redevenir catholiques, ça ne marche pas. Alors que la parole, capable de toucher les cœurs, ça nous rappelle à cette vérité pour nous dominicains capitale, mais qui est une vérité chrétienne, c'est que seule une adhésion libre et profonde à la parole de Dieu fait de chrétiens. Ni les habitudes sociales, ni les contraintes politiques, ni les habitudes ne font des chrétiens. Ce qui fait des chrétiens, c'est son adhésion profonde et libre. On a très bien vu avec l'image de cet aubergiste, vous voyez, qui ne croyant plus dans l'Église catholique parce qu'il ne voyait qu'une Église un peu déliquescente. C'était fait cathare par recherche du bien, mais il n'était pas non plus satisfait des cathares. Il rencontre un homme de lumière qui lui parle avec conviction. Il retrouve le chemin de la véritable foi. Pas de réponse de masse à l'hérésie, mais pas de transmission générale, encore moins autoritaire, mais une parole qui doit être entendue par chacun, reçue par chacun, prononcée avec amour. Donc c'est ce grand thème de la prédication. On voit qu'il a germé chez Dominique, intuition qu'il doit, qui vient du Saint-Esprit, mais en grande partie à travers son évêque Dieck, hein, qui l'a aidé à comprendre ça, et c'est Dominique qui l'a laissé mûrir. Donc voilà ce qui a pu germer, en consonance avec le pape de l'époque et avec les élans de réforme. Voilà ce qu'on peut tirer de ce second voyage à Rome. Alors, à partir de là, Dominique est retourné à Rome tous les ans. On entre dans la dernière période de sa vie, je vous dis, les 6 dernières années, tout le temps. Il va à Rome tous les ans. Il n'y a pas plus romain comme saint que Dominique, mais pourtant il n'a jamais habité à Rome. Bon. Alors, troisième séjour à Rome, il y retourne l'année suivante. L'automne 1216, février 1217. Il retourne à Rome, pourquoi ? Bien parce que le pape lui avait dit, revenez, reviens me voir quand tu auras choisi ta règle. Il trouve un nouveau pape, aussi bien disposé qu'Innocent III, Honorius III. Et alors là, à ce moment-là, saint Dominique obtient du pape tout ce qu'il voulait. Bon, ça, je dis beaucoup, c'est le génie de Dominique. Il a fait bouger les choses dans l'Église, non pas en criant haut et fort qu'il était un révolutionnaire ou un marginal. Il a obtenu dans l'Église en étant tout près du pape, en se faisant apprécier par le pape, en obtenant des bulles, c'est-à-dire des documents écrits du pape qui soutient son intuition. Saint-Dominique, il agit comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Il obtient des séries de bulles, c'est-à-dire de décrets du pape, tout d'abord qui confirment, c'est ça qu'on appelle la fondation officielle de l'ordre en tant qu'ordre universel, 22 décembre 1216, c'est ça dont on va fêter l'anniversaire quand on dit 8e centenaire de l'ordre, c'est le 8e centenaire de cette bulle que le pape a écrite en décembre 1216. Nous, à Toulouse, on dit que la fondation, c'est avril 1215, quand l'évêque a reconnu le couvent de Toulouse. Mais l'ordre dit non, pas du tout, c'est quand ça s'est passé à Rome que c'est devenu un ordre universel, des petites chicanes. Donc très grande bulle par laquelle le pape confirme la communauté fondée par saint Dominique sous la règle de saint Augustin, avec son église, sa possession et ses libertés. Voilà, une véritable reconnaissance par le Saint-Père. Une autre bulle quelques semaines après qui autorise l'envoi de professeurs de théologie de Paris à Toulouse. Dominique voulait qu'à Toulouse, il y ait une école de théologie pour qu'on puisse former des prédicateurs. Donc il obtient du pape que les Parisiens soient forcés de venir à Toulouse. À l'époque, les Parisiens ne voulaient jamais quitter Paris. Ça a bien changé, mais un Parisien n'acceptait jamais d'aller enseigner ailleurs qu'à Paris. Donc il fallait les forcer. Dominique avait des bulles, enfin c'est l'évêque aussi qui avait des bulles, pour forcer des Parisiens à venir enseigner à Toulouse où il n'y avait pas de théologiens. On ne faisait la théologie qu'à Paris. Donc il obtient que des Parisiens sont venus et ont ouvert une école de théologie en 1216. Troisième bulle, une qu'on aime beaucoup, en janvier 1217, où le pape reconnaît un titre, et il va donner son nom à notre famille spirituelle, il reconnaît le titre de l'ordre des prêcheurs. Et c'est à ce moment-là qu'il appelle les fils, enfin Dominique et ses frères, vous êtes des prêcheurs, institutionnellement des prêcheurs. C'est-à-dire, votre mission, c'est de prêcher. C'est la première fois que ce titre, qui jusqu'ici était strictement réservé aux évêques, le prédicateur ecclésié, c'est l'évêque. Et bien pour la première fois, ce titre est donné officiellement à des gens qui ne sont pas évêques, mais qui sont des collaborateurs de l'évêque pour prêcher. Alors, Saint-Dominique, semble-t-il, a manœuvré jusqu'au bout, on pense, à Rome pour faire raturer. On avait commencé par mettre les frères prêchants. Il semblerait qu'il ait fait raturer à la signature apostolique pour qu'on écrive bien prêcheur, parce que prêchant, ça passe, prêcheur, c'est pour toujours. Bon. Donc, trois bulles très importantes. La prédication comme œuvre essentielle de ce propos religieux. C'est là qu'est formulée de manière définitive, du point de vue du droit de l'Église, cette idée d'un ordre voué, non pas à cultiver les champs, non pas à la louange permanente dans l'Église, comme Cluny, mais à prêcher. C'est un propos tout à fait capital. Alors, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu aussi pour Saint-Dominique, dans ce troisième séjour, un rêve ou une vision très importante qu'il a eue alors qu'il était à Rome. Il a eu une vision nocturne, parce qu'il passait son temps à prier la nuit, et bien, bon, il avait des visions. Je vous cite le chroniqueur, il était à Rome, il répandait ses prières dans la basilique de Saint-Pierre, il était là, au cœur de la basilique Saint-Pierre, pour prier, et il voit la main de Dieu qui fond sur lui, et il vit paraître Pierre et Paul, les deux apôtres. Le premier lui confie un bâton, Pierre lui dit « voilà un bâton », Paul lui donne un livre, et tous les deux ajoutent « va et prêche, car Dieu t'a choisi pour ce ministère ». Vous voyez, une vision divine qui vient confirmer ce que le pape venait d'écrire. Voilà. On a toujours besoin de confirmer, encore plus par le Saint-Esprit, même ce que un pape fait. Pour aller. Alors, c'est très clair que le bâton que donne Saint-Pierre à Saint-Dominique, c'est l'image de messager de Dieu, pour l'Église universelle, et le livre, c'est la doctrine, enseigne la parole de Dieu, la parole de vérité. Et c'est alors que Dominique a compris que son ordre devait être universel. Il semblerait que c'est vraiment à ce moment-là, jusque-là, Dominique n'imaginait pas tellement autre chose que de rester dans le midi de la France. C'est lors de ce séjour à Rome qu'il a eu cette par vision. Et le pape ne l'avait pas dit d'ailleurs d'aller dans l'Église universelle. Il avait dit « tu as autorité à fonder ton ordre à Toulouse ». C'est cette vision qui fait que Dominique reçoit cette conviction qu'il est appelé à envoyer ses frères. De sorte qu'à peine rentré à Toulouse, à la Pentecôte suivante, qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'est venu cet épisode qu'on nous a raconté. Il convoque ses frères et il leur dit « mes amis, vous allez vous disperser, vous allez partir » alors qu'ils étaient à peine une dizaine. Il les a envoyés, les uns à Paris, les autres à Madrid, et puis après d'autres à Bologne, dispersant ses frères. Vous voyez cette idée d'universalité. C'est toute l'Église qui va pouvoir bénéficier de ce charisme que nous avons reçu. Et le 15 août a lieu l'envoi de fête vers Paris, vers Madrid, de frères qui partent et qui vont fonder des couvents et se lancer à l'aventure. La thématique que je retiens de ce troisième voyage, évidemment, c'est l'universalité, qui est une marque très, de fait, native dominicaine. L'ordre est resté toulousain pendant 2 ans, c'est tout. Le Saint-Esprit s'est chargé, au-delà même du pape, par la vision de Saint-Dominique, de le disperser dans le monde entier. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà des ordres religieux qui étaient un peu universels dans leur organisation. C'était le cas de Cluny, les grands bénédictins, et les cisterciens. Mais c'était des ordres qui étaient d'abord locaux, avec des abbayes simplement qui étaient fédérés pour organiser de manière universelle leur gouvernement, mais ils n'avaient pas vocation, leur propos de vie n'était pas universel, c'était à chaque fois de rester dans leur abbaye. Ici, c'est vraiment cette idée d'une universalité de la parole, et que les frères doivent pouvoir partir partout à tout moment. Envoyés dans le monde entier, porter l'évangile à toutes les nations, comme les apôtres. Vraiment, Pierre et Paul, cette idée, un ordre d'apôtres, qui n'avait jamais existé. Les ordres religieux étaient toujours stables dans un monastère. On n'imaginait pas des religieux bougeant de couvent à un autre, sauf les cisterciens envoyés prêcher, mais ils revenaient vite à leur monastère. Alors que là, envoi de frères portant l'évangile dans le monde entier. Prêcher partout, c'est-à-dire, alors, je ne développerai pas trop longuement, mais ici, évidemment, pour nous, dominicains et dominicaines, nous sommes très soucieux de ça, cette idée qu'il faut apporter l'évangile partout. Et qu'à mesure qu'on va apporter l'évangile quelque part, il faut s'insérer dans l'endroit où on va, inculturer la parole, dans des cultures, dans des univers très différents. Ceux qui vont à Paris ne vont pas rencontrer les mêmes réalités que ceux qui partent à Madrid. Ils vont incarner la parole de manière différente, mais la même parole. La parole de l'évangile venant du cœur de l'Église. Donc, l'universalité de la parole, instrument pour dépasser tous les risques d'enfermement particulariste et nationaliste, pour créer véritablement une universalité de l'Église. Pour mieux défendre l'unité, il faut accueillir la diversité des peuples, des cultures, et Saint-Dominique, très rapidement, l'a compris, et a fait que son ordre est devenu universel. Quatrième voyage à Rome, j'abrège vite. L'année suivante, 1218, Saint-Dominique, entre-temps, était allé à Paris, il était allé à Bologne, il revient à Rome, dans l'hiver 1218. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il veut obtenir, encore une fois, des bulles. Saint-Dominique, c'était très important pour lui que l'ordre soit toujours au cœur de l'Église, pas d'ordre fondé en contrebande. Non, 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 un ordre au cœur de l'Église, et donc soutenu par l'évêque de Rome. Parce qu'évidemment, les frères qui arrivaient à Paris, qui arrivaient en Espagne, on disait, qui sont ces gens-là? On ne les connaît pas, d'où viennent-ils? Des religieux qui se promènent tout seuls, c'est très mauvais signe. On n'aimait pas ça, des religieux girovagues. Donc les évêques les recevaient très mal, en leur disant, on vient prêcher. Ouh là là, on se méfie des gens qui viennent prêcher, parce que qui les envoie? Bon, bref. Donc les frères avaient des difficultés. Donc Dominique a dit, je vais aider mes frères qui sont dispersés, en faisant que le pape envoie des bulles à tous les évêques, pour leur dire, accueillez ces fils de ces frères de Dominique, ils sont d'authentiques prédicateurs orthodoxes de la vérité. Donc saint Dominique obtient tout un tas de bulles pour vaincre les critiques des évêques ou du clergé séculier qui souvent était un peu méfiant. C'est ces gens qui vont nous prendre notre argent, nous prendre nos fidèles, ou qui risquent de prêcher des choses. Donc vaincre les résistances aussi de l'université de Paris. À l'université de Paris, vous voyez d'un mauvais œil arriver ces moines sortis de nulle part. Bon. Donc il obtient des bulles. Ensuite, étant à Rome, c'est là qu'il, pour la première fois, il se met à prêcher beaucoup dans les églises romaines. On sait qu'il a prêché pendant plusieurs mois, en particulier le carême. Obtient de nombreuses conversions, dont celle qui nous est chère d'un vénérable ecclésiastique très installé, parisien, Réginald de Dorléans, qui était un chanoine d'Orléans, professeur à la faculté de Paris, un grand monsieur de 50 ans passé, qui s'est converti vraiment à l'évangile, il le dit, et qui est rentré dans l'ordre dominicain. Ça fait beaucoup de bruit. Imaginez un professeur au Collège de France qui a 50 ans, qui tout pour rentrer dans une fondation née de quelques années. Bon. Par la parole de Dominique. À ce moment-là aussi, on pense que c'est au cours de ce voyage que saint Dominique, au retour, quittant Rome, serait passé par Assise, mais c'est hypothétique, pour assister à un grand chapitre de la portion cul en juin 1218, où saint François avait rassemblé ses frères. Donc, on pense que c'est plausible. En tout cas, Saint-Dominique a dû passer pas loin, le chapitre franciscain avait lieu, donc les historiens disent que ça a peut-être pu y avoir une occasion que Dominique rencontre François, avec la question de la pauvreté. Alors, ce qu'on pourrait développer ici, mais je le ferai peu, c'est la thématique de la pauvreté. Parce qu'évidemment, une des difficultés que rencontrait Dominique, c'est que jusqu'ici, tous les religieux, qui étaient des religieux canoniques, j'entends pas des religieux girovagues ou par contrebande, mais des vrais religieux, jamais ne pouvaient vivre dans une situation de pauvreté collective. Ils vivaient une pauvreté individuelle, un religieux renonçait à ses biens, mais toujours, un ordre religieux devait toujours avoir des biens, des grandes propriétés pour assurer son indépendance. C'est comme ça que fonctionnaient tous les ordres monastiques, des grandes propriétés qui leur étaient données, qu'ils travaillaient eux-mêmes, ou qu'ils faisaient travailler par d'autres, qui leur assuraient des revenus, de manière à ne pas dépendre. C'était la liberté des religieux qui dépendaient de ça. L'idée que des moines aillent mendier était insupportable, inimaginable. Saint François avait cette idée, et saint Dominique avait la même. Soit on prenait les prédicateurs mendiants pour des dissidents, soit pour des itinérants un peu douteux, donc on n'aimait pas du tout les mendiants. C'est pour ça que saint Dominique, malgré tout, a voulu que ces religieux soient de véritables mendiants, c'est-à-dire vivent une pauvreté qui soit pauvreté non seulement individuelle, mais collective. Que ses frères ne possèdent rien, même tous ensemble, que les couvents ne soient pas propriétaires de grands terrains. Alors, c'est l'intuition dominicaine de la pauvreté, je vais le voir, mais qui est très importante pour nous, qui ressemble un peu à celle des franciscains, qui est contemporaine, quoique un peu différente. Bon, chez les franciscains, on voit vraiment que si l'idée de vivre comme les plus pauvres et les plus humbles pour partager la pauvreté du Christ, c'est vraiment une imitation de la pauvreté du Christ pour rejoindre les plus petits, l'ordre des mineurs. Chez Dominique, on sent que cette pauvreté, elle a aussi cette idée, mais elle part surtout de la finalité de la prédication, faire que les frères qui prêchent ne soient pas supérieurs par leur argent et par leur mode de vie à ceux à qui ils prêchent, mais qu'ils soient comme proches d'eux par leur pauvreté. Que la pauvreté soit un moyen de rejoindre ceux à qui on parle. Quand vous voyez arriver un grand prélat avec des bagues d'or et des vêtements lumineux qui vous prêchent la pauvreté, c'est pas très crédible. Donc saint Dominique voulait que les frères vivent très pauvrement, individuellement et communautairement, pour donner force au témoignage. Prêcher par la parole et par l'exemple. Ça, c'est très dominicain. Verbo et exemplo. On ne l'a pas toujours vécu, l'ordre aussi s'est enrichi, comme tout le monde, mais l'intuition de saint Dominique, c'était vraiment prêcher dans la pauvreté. Être mendiant pour l'exemple, de même que la vie commune, fraternelle, est d'abord là pour donner un témoignage de fraternité. Il est possible de vivre ensemble sans se disputer, sans se chamailler, sans se haïr, au contraire en se pardonnant. Oui, le témoignage de la vie commune, le témoignage de la pauvreté, comme instrument pour aider la parole à pénétrer les cœurs, comme signe de témoignage. Cinquième voyage à Rome, l'année suivante, 1219, fin 1219, début 1220. Là aussi, Dominique veut toujours obtenir des nouvelles lettres apostoliques, des nouvelles bulles pour le recommander. Parce que déjà à ce moment-là, vous voyez, 4 ans après, il avait déjà 100 frères. Il est parti de 10 en 1215 à Toulouse. Fin 1219, on est déjà avec 100 frères. Donc une croissance rapide. 8 maisons formées à travers toute l'Europe. Donc il fallait continuer à vaincre des résistances, donc il accumule des bulles. Mais surtout, il veut obtenir des bulles pour faire reconnaître son intuition de pauvreté, dont je viens de parler. Parce que ça n'existait pas du tout dans l'Église. En décembre 1212-19, il obtient du pape une bulle qu'on appelle la bulle de mendicité. C'est la première fois qu'un pape reconnaît un nouveau type de prédication, un nouveau type de vie religieuse. Le pape dit « Vous allez aller prêcher », et l'expression on l'aime beaucoup, « dans l'abjection de la pauvreté volontaire ». Ça c'est extrêmement fort. L'abjection. Vous allez vivre de manière abjecte comme 90% des gens à qui vous prêchez qui sont pauvres, qui ne sont pas des riches. Vous allez vivre comme abjection de la pauvreté volontaire. C'était absolument une nouveauté radicale dans l'Église. Institutionnaliser la pauvreté. Alors que l'Église avait toujours peur que si on vit pauvre, on va dépendre des riches. Ben non, vous allez dépendre des riches, mais en vivant pauvre malgré tout. Vous vivrez de ce qu'on vous donnera. Pauvreté radicale que le pape reconnaît en 1219. Saint-Dominique a arraché ça au Saint-Père, mais il en était convaincu. Simplement, il voulait que Saint-Dominique fasse ses preuves. Alors ensuite aussi, au cours de ce voyage, Saint-Dominique reçoit une mission spécifiquement romaine, qui était, parce que Saint-Dominique, partout où il passait, se faisait adorer par tout le monde. Bon, on ne pouvait pas le voir sans l'aimer, semble-t-il, partout où il passait. Donc, il était devenu le béguin du pape et de tout le clergé romain. Et alors, il y avait un problème dans l'Église de Rome, c'était la vie monastique féminine. Parce qu'il y avait beaucoup de monastères à Rome, très nombreux, très anciens, mais qui étaient tous plus décadents les uns que les autres. C'était plein de moniales, mais qui vivaient tous sauf la vie monastique. Elles venaient toutes de grandes familles, elles vivaient luxueusement dans des cellules de luxe. Bon, il n'y avait plus de vie monastique authentique. Et le pape demande à Dominique de réformer la vie monastique à Rome. Et il lui donne pour ça un couvent dans lequel il devait rassembler des volontaires, des moniales romaines volontaires, pour un nouveau type de vie religieuse vraiment pauvre. À Saint-Sixte, une belle église qui est toujours tenue par des sœurs dominicaines, aujourd'hui c'est plus des moniales, mais on peut toujours le visiter, qui est à côté de, pas très loin du cirque, du Colisée, entre le Colisée et le cirque Maxime. Ce couvent Saint-Sixte, Saint-Dominique fait faire des travaux, fait venir des frères pour préparer la place de moniales romaines qui vont accepter de vivre une vie radicale monastique. Saint-Dominique aussi va voir le pape qui était à Viterbe, obtient encore une nouvelle bulle qui le nomme, pour la première fois, prieur de l'ordre des prêcheurs. La première fois que Saint-Dominique se fait appeler prieur de l'ordre des prêcheurs. Bon, jusqu'ici, il n'y avait pas encore une organisation très structurée. Et c'est de ce moment-là que va dater la première structuration définitive de l'ordre, puisque aussitôt après, l'été suivant, en 1220, Saint-Dominique convoque le premier chapitre général des frères. Tous les frères sont convoqués à Bologne, principalement au vu de donner des institutions, de donner une structure et un droit à l'ordre. Alors, c'est là qu'on pourrait longuement développer, je ne le ferai pas, les caractéristiques du gouvernement dominicain. Là aussi, qui est assez nouveau dans le... mais tout à fait en phase avec les nouvelles formes de gouvernement qui commençaient à émerger dans les cités, hein, les cités laïques de l'époque, c'est-à-dire l'idée d'un gouvernement qui ne soit pas purement monarchique, mais qui soit monarchique et communautaire à la fois, où on allie toujours le principe d'un seul chef qui gouverne, parce qu'il faut toujours une personne qui gouverne, mais de manière fraternelle et communautaire. Rechercher et fortifier l'unité par la participation de tous les frères, alors c'est le génie dominicain d'avoir fait qu'il y a toujours un chef. Il ne peut pas y en avoir deux, il y a toujours un prieur, un maître de l'ordre, un provincial, un prieur, qui a l'autorité, hein, qui est le prélat. Mais il est toujours entouré, à tous les niveaux, de plusieurs instances collégiales, sans lesquelles il peut difficilement agir, dont il doit obtenir le consentement, et qui sont des lieux d'expression de ce dont l'adage, qui est très, très répandu à l'époque, et que Saint-Dominique, semble-t-il, avait fait sien, le père Congar l'a beaucoup marqué là-dessus, hein, ce qui concerne tout le monde est décidé par tout le monde. C'est un très bel adage. Le prieur ne peut pas tout décider pour tout le monde. Dès lors que ça concerne tout le monde, il faut que tout le monde participe de près ou de loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef. Après, il y a un chef qui fait appliquer ce qui a été décidé. Il y a toujours eu chez nous un chef, il faut qu'il y ait un chef. Mais avec cette idée qu'à tous les niveaux, il faut de la délibération, des votes. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps, nous les dominicains, dominicaines, à cet aspect-là. Bon. C'est cette dimension qui vient directement de Saint-Dominique, qui est tout à fait différente pour ça du gouvernement bénédictin avec un père abbé, qui est le père. Et les enfants écoutent le père. Les enfants ne gouvernent pas, ils écoutent le père. Chez Saint-Dominique, c'est des frères qui sont concernés. Ils élisent un pour les gouverner, parce qu'il faut un gouvernant, mais il participe à l'élection, il participe aux décisions. C'est la vie d'un gouvernement communautaire. C'est très caractéristique, et ça, ça vient directement de Saint-Dominique, qui a donné ça à ses frères en héritage. Dernier voyage, à Rome, l'année suivante, décembre 1220, mai 1221, Saint-Dominique retourne encore une fois à Rome, après être passé partout, il était passé à Amiens, à Metz, en Suède, bon, dans plusieurs endroits, il revient à Rome pour obtenir des bulles, toujours pour que les évêques, oui c'est ça, en Suède, les frères se faisaient chasser. Alors, Saint-Dominique obtient une bulle pour que les évêques de Suède les accueillent, à Sienne, à Plaisance. Bon, il faut vaincre les évêques par le pape. Ça, c'est très dominicain. Enfin, c'était ce que faisait Saint-Dominique. Les évêques résistent, mais le pape est avec moi. Bon, donc je peux obtenir mes fondations. Il vient installer les sœurs moniales à Saint-Sixte. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y avait un groupe d'une quarantaine de moniales romaines qui ont accepté le projet de Saint-Dominique, de vouloir vivre une vraie vie monastique autour de Saint-Dominique. Donc elles arrivent, les moniales, toutes des romaines, hein, s'installent, 40 sœurs, régies par une nouvelle règle, élaborée par Saint-Dominique, en fonction des usages des frères prêcheurs, mais rédigée par Dominique lui-même, afin d'enseigner. Alors il fait venir aussi des sœurs de Prouille, ces petites filles chéries, ces sœurs chéries de Prouille, il en fait venir 8 pour faire prendre la sauce à Saint-Sixte. Et c'est comme ça que la vie monastique romaine a été rénovée, grâce à ces anciennes cathares du midi de la France, autour de Saint-Dominique. Saint-Dominique, après, repart prêcher, et évidemment, il meurt d'épuisement les mois suivants. Bon, la thématique qu'on pourrait retenir ici, je terminerai par là, parce qu'elle est très belle, plus Saint-Dominique avançait dans son ministère, dont il savait qu'il serait court, plus il était épuisé, plus rayonnait, et ça tous les frères en sont témoins, sur son visage, la miséricorde et la joie. De sorte qu'on peut dire que c'est vraiment à la fin de sa vie qu'est apparu plus que jamais ces deux qualités de la personne. Là, on touche vraiment à la personne de Dominique et pas simplement à son charisme, même si on a essayé dans l'ordre de transposer ça. Hein. Ces deux aspects de miséricorde et de joie, tous les témoins ont dit l'épanouissement final de ces qualités spirituelles de Dominique. À mesure qu'il approchait de la mort, épuisé, il rayonnait toujours plus de cette joie, à la fois de sa douceur. On dit que Saint-Dominique est témoin d'une nouvelle forme de sainteté qui émerge au XIIIe siècle. Avant, c'était souvent des saints très bourrus, très, très austères, très ascétiques, un peu durs. Saint-Dominique est témoin, bon, avec Saint-François, mais il est encore moins anguleux que Saint-François, ben c'est ce qu'il disait, d'une forme de sainteté toute de douceur, d'aménité, de bonté, avec une très grande force intérieure, un très grand amour de la vérité, mais une espèce de joie communicative, capable de reconstituer les forces intérieures de ceux à qui il parle. On note chez lui beaucoup le sens de l'amitié. On n'a pas vu beaucoup de saints qui cultivent le sens de l'amitié entre frères et sœurs. Lui-même aimait beaucoup aller voir les sœurs. C'était pas le père, c'était le grand frère au milieu de ses sœurs. Il s'enquérait d'ailleurs à chaque fois, est-ce qu'elles buvaient à votre aise, mes filles? Il faisait circuler du vin parce qu'il avait peur qu'elles soient trop austères. Donc il voulait qu'elles soient... Lui n'en buvait pas, mais il voulait qu'elles... Hein. Sens de la joie qui frappait les derniers témoins de sa vie. Hein. Je cite, il était gai, joyeux. Pour qu'on dise ça d'un saint, c'est pas fréquent. Après, on recommencera avec Philippe Néri plus tard. Mais de Saint-Dominique, on le disait. Hein, gai, joyeux, patient, miséricordieux, plein de bonté pour consoler. Le sens de la consolation. Écouter les pleurs, écouter les souffrances, être à côté en frère pour consoler. Il restait toujours souriant et joyeux, à moins qu'il fût ému de compassion par quelque affliction du prochain. Vous voyez, cette capacité, cette empathie, ça reste une marque personnelle de Dominique, dont on est certain, parce que tous les témoins... Tout ce qu'on sait de Dominique, en fait, ça vient du procès de canonisation. On a très peu décrit de la vie même de Saint-Dominique, mais après, les frères ont témoigné, les sœurs ont témoigné. Voilà, on a ce portrait spirituel. Eh bien, nous, ces enfants, on tâche d'hériter aussi ces traits personnels de sa spiritualité, que sont joie et miséricorde. Voilà, écoutez, je m'arrête là parce que je ne veux vraiment pas dépasser plus.
Très très grand merci au frère Henri qui a su, et je pense que ça vous l'aurez noté, de quelque manière nous donner un peu l'ADN